nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Jean-Georges Kibogora.
Merci pour votre fidélité à la radio Nzamba Aretakawe. Soyez tous les bienvenus dans ce journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. L'ancien député Fabien Vantindelino incarcé à la prison centrale de Mimba subirait de mauvais traitements en prison. Le Foco de l'Homme pour la conscience et le développement lance un cri d'alarme. Dans ce journal, vous entendrez le président du Foco des Pacifiques, Nina Azoué. Et puis cela fait exactement 3 ans que la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture des enquêtes sur les crimes commis au Burundi depuis 2015. Les avocats des victimes demandent à cette cour de passer à la vitesse supérieure et de sortir des mandats des présumés coupables. Dans le domaine du sport, l'équipe nationale de football Inamba Mugamba croise le fer demain mercredi avec l'équipe de la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Le Burundi doit remporter la phase aller-retour pour espérer une qualification. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inamba en direct sur le www.inamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des sources de la prison centrale de Mimba ont alerté ce mardi matin sur les abus à la sécurité de l'ancien député Fabien Vantindelino détenu à cette prison. Il a été placé en isolement, alors qu'il changeait avec un de ses codenus qui reste toujours en prison après avoir épuisé sa peine. Pacifique Nazwe, un des défenseurs des droits de la personne humaine, indique que l'ancien député subit toujours des menaces de torture, victime de son charisme selon le président du Fokodé, Pacifique Nazwe. Nahazwe alerte également sur la santé fragile du député Fabien Vantindelino. On l'écoute.
Selon les informations que nous avons obtenues ce matin, l'honorable Fabien Vantindelino a reçu un autre prisonnier qui venait lui présenter la situation d'injustice qu'il traverse. Le prisonnier disait qu'il venait de passer une année en prison après avoir terminé sa peine. Alors, l'honorable Fabien Vantindelino aurait demandé la preuve. L'autre prisonnier lui a donné cette preuve. Et c'est à ce moment que des agents de sécurité de la prison, quand on dit agents de sécurité, il s'agit d'autres prisonniers, en l'occurrence d'un milicien Imbonerakure, qui s'appellerait Prosper Minani, qui ont surgi et qui ont arrêté les deux prisonniers qui étaient en train d'échanger. Ils auraient été conduits devant le directeur de la prison de Mimba, qui, sans avoir même le temps d'écouter Fabien Vantindelino, a décidé de l'envoyer dans un cachot, un très mauvais cachot à l'intérieur de la prison de Mimba, qui est plus connu sous le nom de correction. C'est un endroit, on nous a dit, qui est très sale, un endroit où les prisonniers sont mis à l'isolement et un endroit où toutes sortes de sévices peuvent être commis sur les prisonniers. Donc ceux qui ont alerté avaient peur des suites de cet isolement. Fabien Vantindelino peut subir des tortures sans qu'il y ait des témoins à la prison centrale. Et nous rappelons qu'il est malade. Et même au moment de cette arrestation à l'intérieur de la prison, il était en train de prendre ses médicaments. Alors nous en appelons à la responsabilité des autorités burundaises pour garantir la sécurité de Fabien Vantindelino durant sa détention préventive. Nous rappelons que c'est toujours un innocent puisqu'il n'a pas été condamné. Et nous condamnons plusieurs entreprises qui seraient en cours pour menacer gravement la vie de Fabien Vantindelino à la prison centrale de Mimba.
Pacifique Nazwe, c'est le président de Foco de l'Homme pour la conscience et le développement. Et puis il y a 3 ans que le bureau du procureur général de la Cour pénale internationale a annoncé officiellement l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis au Burundi depuis 2015. Les victimes comme les rescapés de ces crimes se demandent quand cette justice va agir. Les avocats qui suivent de près leur dossier tranquillisent que les dossiers suivent leur cours normal et que la lenteur résulterait du contexte dans lequel les enquêteurs travaillent sans la collaboration du gouvernement burundais qui s'est retiré de la convention de Rome, une convention instituée à la Cour pénale internationale. Maître Lambert Nigaro demande tout de même à la Cour pénale internationale de passer à la vitesse supérieure pour sortir les mandats des présumés coupables.
vis-à-vis du contexte dans lequel cette équipe travaille, et surtout le refus de l'État du Burundi de collaborer avec cette équipe d'enquêteurs. Donc ces enquêteurs n'ont pas accès sur le terrain, ne peuvent pas accéder facilement aux victimes, donc cela aussi peut ralentir leur travail. Mais aussi, il faut comprendre que les avocats, deux collectifs d'avocats, Justice for Burundi et CAVIB, ont transmis des milliers de dossiers bien confectionnés. Mais dans la pratique, la procédure, c'est que l'équipe d'enquêteurs doit revérifier les informations contenues dans ces dossiers. Donc le bureau du procureur n'utilise pas les dossiers comme ils les ont reçus, mais il doit faire une revérification et se rendre sur le terrain dans la mesure du possible et chercher à rencontrer les victimes qui sont identifiées dans les dossiers, les parler et pour voir la véracité de l'information reçue. Donc il s'agit d'une procédure normale qui prend généralement du temps, et surtout avec le contexte actuel, avec le refus du Burundi de collaborer. Vous comprenez que l'équipe d'enquête doit utiliser une stratégie et aussi des gymnastiques, ce qui prend beaucoup de temps. Bien que 3 ans viennent de passer, rien n'est encore perdu. Les familles des victimes, les victimes ont le droit d'espérer. Les avocats ne lâcheront rien et le combat pour la réhabilitation doit continuer. Et quel que soit le temps, il faut comprendre que les crimes qui ont été commis et qui continuent d'ailleurs à se commettre sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que tôt ou tard, qu'il neige ou qu'il pleuve, les criminels, ceux qui ont commis ces crimes, répondront de leurs actes et les victimes seront sans aucun doute réhabilitées demain ou après demain. Et nous profitons d'ailleurs pour lancer un appel au bureau du procureur. Il y a ce qu'on ne peut pas dire dans les médias, mais chose certaine, c'est que le bureau du procureur, l'équipe d'enquêteurs, avance normalement.
Et puis sans transition, la CAD Burundi s'inquiète de la lenteur que prend le traitement du dossier de son ancien employé Jamais Okuki. Maître Jean-Claude Denis Boulumou, aussi chargé du département juridique au sein de la CAD Burundi, demande à la présidente de la Cour d'appel de Narangwa de prendre en main le dossier et de faire sienne la question.
Comme les autres partenaires qui suivent de près le dossier de notre confrère Jamais Okuki, ACAT Burundi est profondément préoccupé par la lenteur observée dans le traitement de ce dossier de son ex-employé Jamais Okuki. En effet, la Chambre de cassation de la Cour suprême a rendu un arrêt en faveur de Jamais Okuki pour plusieurs irrégularités observées dans le traitement de son dossier. Tout a été fait par le conseil pour que la juridiction de renvoi à l'occurrence la Cour d'appel donne à puisse programmer cette affaire afin de plaider au fond ce qui n'a pas encore été fait. La passivité de la Cour d'appel de Nahangwa est contraire à la politique du ministère de la Justice qui parle aujourd'hui d'une sérénité dans le traitement des dossiers pénaux. Nous demandons à la présidente de la Cour d'appel de Nahangwa de faire priorité ce dossier afin qu'il soit traité au fond et dans les meilleurs délais, étant donné que c'est un dossier qui commence à prendre de l'âge compte tenu de la date de son arrestation. C'est un dossier aussi qui est suivi par beaucoup de gens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça ternit vraiment l'image de la justice burundaise.
Et vous saurez que Jamais Okuki est emprisonné à la prison de Ngozi depuis plus de 3 ans. Il est accusé d'avoir participé au mouvement insurrectionnel et aux bandes rebelles. Et puis, dans le même dossier de la justice, les 4 journalistes du groupe de Pressiwachu sont incarcérés depuis 386 jours à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza et doivent purger une peine de 2 ans et demi et payer une amende d'1 000 francs burundais chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza, alors qu'ils se rendaient en commune de Moussigati couvrir les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles. Les 4 journalistes, Christine Kamikazi, Agnès Ndouroussa, Terence Mozesi et Gide Harimana, sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de la personne humaine et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés injustement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition.
Chers enseignants, soyez des modèles pour vos élèves en ce qui est de la prévention de la COVID-19. Vérifiez et aidez les élèves à appliquer les mesures barrières de prévention. Alertez chaque signe suspecté d'atteinte de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Nzamba.
Agathe Kaka. La suite de ce journal sur la radio Inzamba, arrêté à Kawe, eh bien, les habitants de la commune de Nyabihanga dans la province de Mwaro se lamentent contre la mesure prise par l'administration communale instaurant un couvre-feu. Eh bien, des bistrots doivent fermer dans cette commune à partir de 21h. À 7h également, aucune moto-taxi n'est autorisée à circuler sur toute l'étendue de la commune Nyabihanga. Ces habitants ne comprennent pas cette décision au moment où leur commune est en sécurité. Au niveau de la loi, l'administrateur de la commune a bel et bien les prérogatives d'exercer un pouvoir général de police en prenant des mesures dans sa circonscription selon le prescrit de la loi communale en vigueur, mais dans le but de protéger sa population si elle est en danger. Les explications sont données par maître Yves Runyagou.
L'administrateur communal de Nyabihanga, en prenant la décision d'instaurer un couvre-feu à partir de 21h, a dû se baser sur une disposition de la loi communale. Si je me rappelle bien, c'est la disposition de l'article 13 de cette loi qui donne un pouvoir général de police à l'administrateur. Pour rappel, cette loi communale, qui est par ailleurs en vigueur aujourd'hui, est une loi organique, c'est-à-dire une loi qui vient compléter la Constitution. Surtout relativement à l'aspect organisation des pouvoirs publics. Et cette loi précise très bien que l'administrateur communal peut exercer son pouvoir général de police dans les limites territoriales de son ressort. Elle précise également de façon claire que l'administrateur communal peut prendre toute mesure de police qu'il juge utile au maintien de l'ordre et de la sécurité publique. La question qui devrait peut-être se poser, ou plutôt la portée de son pouvoir général de police. Et sur ce, la doctrine explique que les mesures de police sont là pour justement habiliter ou donner le pouvoir à une autorité de limiter la liberté des individus, pouvoir influencer leur comportement lorsque, surtout, il va de la sûreté, de la santé, de la morale, bref, du bien-être général de la population.
Et nous avons cherché l'inspecteur de la commune de Nyabihanga pour savoir si ces accusations de la population sont fondées, mais sans succès. Dernier dossier de ce journal, et je vous le disais en titre, ce mercredi à 16h, heure de Bujumbura, le Burundi va affronter la Mauritanie à Nouakchott dans un match comptable pour la troisième journée des éliminatoires pour la CAN 2021. Les hirondelles Inhambamburugamba doivent battre les Mourabitouna à Nouakchott et à Bujumbura pour espérer une qualification, une mission difficile, mais pas impossible. Suivez l'analyse de Désiré Antonimana.
Match de ce mercredi entre la Mauritanie et le Burundi à Nouakchott est un match capital pour les Inhambamurugamba qui cherchent la qualification à tout prix. C'est un match capital parce que le Burundi compte 0 points jusqu'aujourd'hui, alors que l'adversaire du jour compte 4 points ex aequo avec le Maroc, tandis que la Centrafrique compte 3 points. Le Burundi, qui est dernier du groupe, doit faire des efforts énormes pour espérer une qualification. Pour se qualifier, les joueurs de Jimmy Ndayizeye doivent gagner à Nouakchott et gagner également au Burundi, sinon les équations seront très difficiles, mais mathématiquement, rien n'est encore perdu. Jimmy Ndayizeye part à Nouakchott avec une équipe solide, contrairement à l'équipe alignée par Olivier Niyungeko contre le Maroc et contre la Centrafrique. Au niveau de la défense, Nzeyimana Philippe, qui joue au Danemark, n'était pas là, de même que Marco Weymans, qui joue la première division en Suède. Ces deux joueurs viennent pour renforcer la défense, qui avait des failles sur le côté gauche et le côté droit. Au milieu du terrain, Jimmy Ndayizeye bénéficie également des joueurs de qualité qui évoluent dans de grands clubs européens, à savoir Nduwarugira Christophe, qui joue au Portugal, Daishimiye Youssouf, qui joue en Turquie, et Gaël Bigirimana, qui est en Irlande. Ces trois joueurs viennent pour identifier le milieu de terrain. En plus de cela, Jimmy Ndayizeye va compter sur l'expérience de Nibazo Nkiza Saidi, qui a évolué dans plusieurs équipes d'Europe en première division. Jimmy Ndayizeye a une équipe de qualité. Ils se sont déplacés dans de bonnes conditions et ont été accompagnés par pas mal de fans burundais. Si Ndayizeye parvient à gagner en Mauritanie et au Burundi, les chances de se qualifier seront toujours là. Mais s'il ne gagne pas, le Burundi a peu de chances de jouer la CAN pour la deuxième fois d'affilée.
Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci bien de l'avoir écouté, Jean-Georges Kiboura vous l'a présenté avec la collaboration technique de Jospin Nduimana. Au revoir et à la prochaine.